Bienvenue sur le podcast des champions, des leaders de demain. Je m'appelle Rhode Cecilia, je suis auto-entrepreneur en tant qu'artiste peintre, j'investis donc dans le domaine artistique. Au travers de ce podcast, je t'aide à avoir les bonnes clés pour l'accomplissement de ton ou tes projets. Bonne écoute! Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le réveil des champions. J'aimerais te parler d'une chose importante que je crois qu'à un moment donné dans notre vie, il sera important de pouvoir prendre connaissance. Je vais l'introduire avec un constat que je remarque dans notre génération. Dans notre génération, je remarque qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui souhaitent amener les choses à exister, c'est-à-dire à créer, innover. Être précurseur de, ça peut être précurseur d'un mouvement politique, religieux, musical. En tout cas, d'être dans cette démarche d'innover et de faire ce qui n'a pas été fait. Mais il y a une chose, une notion importante qui se perd de plus en plus, pour ne pas dire qui est en voie de disparition, selon moi, c'est l'héritage. Je vais introduire vraiment cet épisode avec ce texte d'un peuple, et ce peuple, c'est le peuple juif. À un moment donné de son histoire, ce peuple, dans sa construction, dans son avancement, avait un leader. Ce leader s'appelait Josué. Le rôle de Josué était de guider ce peuple pour l'amener à sa terre promise. Sa terre promise était Canaan. Le Canaan n'est pas très loin de la mer Méditerranée, la grande mer, la mer morte, juste au-dessus du Jourdain. Le goal du coup de Josué était de ramener le peuple jusqu'à cette destination. Et donc cette conquête ne s'est pas faite sans obstacle, parce qu'il y avait aussi des ennemis sur le Canaan, donc cette terre-là qui leur était destinée. Et donc il est important de mentionner, ça va nous aider aussi pour la suite, par rapport à ce que je vais vous expliquer, il est important de mentionner que ce peuple croyait en Dieu, et s'attachait et pratiquait la loi de Moïse, et il devait la respecter. En lisant les textes officiels, on voit par la suite ce qui est arrivé. Toute génération alla rejoindre ses ancêtres, et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, donc l'Éternel c'est Dieu, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Voilà pourquoi j'ai introduit ce message-là avec ce texte, avec cette histoire. C'est qu'on remarque qu'il y a un oubli, en fait, complet de l'héritage spirituel, car on apprend que cette nouvelle génération servait d'autres dieux. Si vous lisez le texte dans la Bible, dans Juges, on voit que cette génération a oublié Dieu, donc le Dieu de leurs ancêtres, pour adorer d'autres dieux avec un X, et oublia complètement les principes justement de leurs ancêtres et ce qu'ils reçurent.
Où est-ce que je souhaite en venir? Comme j'ai pu te le dire au début, tout le monde veut être innovateur d'eux, précurseur d'eux, être le premier des premiers qui a fait telle ou telle chose. Mais on oublie une chose importante, qui va hériter de notre production et de ce que nous avons produit. Là, on y pense moins, j'ai l'impression. Parce que tout au long de ta carrière, voilà, t'as passé, on va dire, 50 ans sur Terre, mais t'es pas éternel. Et je crois fortement que tout ce que tu as fourni, tu ne veux pas que ça puisse se perdre. Donc il faut penser au successeur. Et pour penser au successeur, il faut avoir cette clé en tête, la clé de la pérennité. Pourquoi il y a des organismes de renom, hein, qu'on peut connaître ou peut-être pas, même après le décès des auteurs, continuent encore à vivre, encore à progresser? Parce que je crois fortement qu'il y a eu cette pensée de pouvoir amener l'entreprise au plus loin en pensant aux héritiers, à la pérennité. Au-delà de eux-mêmes, ils voyaient déjà. Et cela peut se passer dans le cercle familial, donc de père en fils, ou même plus loin, les grands-parents, arrière-grands-parents, mère, fille, ça dépend de la nature de ce qui a été produit. Mais pas que. Il y a aussi dans, on va dire, avec les inconnus. Et c'est pas forcément en ayant une entreprise officielle. Et encore une fois, je le rappelle, c'est Moi, quand je parle d'entrepreneuriat, c'est l'idée d'entreprendre. Ça peut être quelqu'un qui a une entreprise, mais aussi celle qui entreprend un projet et pas forcément avec le statut d'entrepreneur. Mais ce n'est pas que seulement dans le cercle familial. Ça peut être aussi ta communauté, sur les réseaux sociaux. Voilà, ceux qui te suivent sur ton blog. Et ils vont pas forcément hériter du blog à proprement parler, parce que je crois fortement qu'ils peuvent hériter justement de ce que tu inspires, tes valeurs, tes principes, ce que tu transmets justement au travers de ta plateforme et ce qu'ils vont recevoir. Là aussi, ce type de personnes qui sont, on va dire, dans ce type de configuration, tu es aussi concerné. Tu es aussi concerné. Donc oui, ils hériteront peut-être pas d'une richesse financière, mais une richesse spirituelle, une richesse aussi de différents domaines. Mais en tout cas, tu vas transmettre des choses, tu vas amener des choses, les gens vont recevoir de toi. Et comme j'ai pu le dire, voilà, tu n'es pas éternel. Il faudra à un moment donné, dans ton parcours, penser à ça. Et pas forcément que lorsque tu auras 50 ans et lorsque tu auras 60 ans. Je vais te dire pourquoi il faut y penser assez tôt.
J'aimerais parler d'une marque que tu connais sûrement. Et cette marque, c'est Renault. Renault a été créé en 1898 par les frères Louis, Fernand et Marcel. Du coup, Renault, leur nom de famille. Renault a 120 ans aujourd'hui. Et leur création a commencé avec un modèle qui s'appelle la voiturette. Ça a eu un franc succès. Donc, ils continuent les innovations de créer, de mettre en place justement de nouveaux modèles. Et on voit justement que Renault traverse les âges. Cette marque a traversé plusieurs siècles, a servi pour la Première Guerre mondiale. Et on voit, et ce qui me touche au travers de l'histoire de Renault, c'est que leur création répondait aux besoins quotidiens de la population. Donc c'était pour les autres et pour améliorer justement les conditions de vie. On a par exemple la Renault 16 en 1965, qui a été lancée à l'époque du baby boom et qui offre en fait une voiture aménageable et adaptée, qu'on peut moduler, aux familles pour avoir plus de place. Renault existe jusqu'à aujourd'hui. Par contre, les trois frères sont morts, donc Louis, Fernand et Marcel. C'est d'autres personnes qui sont à la charge de cette entreprise. Et on peut voir comment Renault use et a usé de créativité pour qu'à chaque génération, offrir de nouveaux modèles de voitures de plus en plus actuels, en phase avec aussi la croissance d'un point de vue technologique. Et on voit son évolution. J'aime dire que l'affaire Renault a une histoire. Et moi, quand je dis histoire, c'est qu'on peut détecter un début. On peut détecter aussi son émergence, donc son évolution. Et puis après, la fin, point d'interrogation. Je veux te dire que ton rêve est une histoire. Si tu veux qu'il traverse les âges, il faut penser à la succession. Et pour développer la notion d'hérédité, de succession, entre guillemets, il faut investir chez les autres, inspirer, former. C'est ça, la formation. Renault est une inspiration par le développement vraiment de son entreprise. Il a plus de 179 000 collaborateurs et il a connu une expansion internationale en Afrique, en Asie, en Australie. C'est-à-dire qu'on le retrouve partout, Renault. Pour investir chez les autres, faire du développement chez les autres, il faut penser justement au modèle. Il faut être un modèle. Que votre vie parle. Je ne parle pas de perfection, mais votre vie doit parler. Et surtout, quand vous formez les autres, vous êtes un propre exemple pour eux, autant au travers de ce que vous transmettez oralement, mais aussi au travers de votre expérience, de votre attitude, de votre caractère. C'est ça qui joue. L'essor de Renault a commencé dans le milieu familial. Vraiment, ça s'est développé entre frères d'abord, dans la fratrie. Et donc, il est important de veiller au caractère, à votre mode de vie, parce que c'est ça qui va parler. Et Renault, lorsqu'on voit son évolution, l'affaire Renault n'a pas de jambes, n'a pas de bras, n'a pas de tête. Ce sont des personnes qui sont derrière. Et quand on voit comment Renault s'est développé, on voit, ça révèle vraiment l'ingéniosité, l'intelligence et les capacités qu'ils ont eues à monter cette affaire-là et à proposer justement... Voilà, ces gammes de voitures pour le besoin de la population.
le public n'aura pas que besoin de savoir que vous êtes parvenu au point B, C, D, mais de connaître votre parcours. Ce qui intéresse vraiment les gens, c'est le processus. C'est comment a-t-il pu arriver au point D alors que moi je suis coincé au point A. Comment a-t-il fait? C'est ça qui va parler. Parce que eux aussi veulent avoir des clés pour réussir leur destinée, réaliser leurs rêves. Ils se disent que cette personne a atteint ce niveau-là, mais comment a-t-il fait? Je te donne un exemple. Deux personnes riches, mais deux cas différents. Tu as en premier un voleur, une personne qui braque des banques, qui vole, donc qui travaille dans le noir, et une autre personne qui, elle, a commencé petit, a persévéré, a eu des difficultés, certes, mais s'est enrichie au fur et à mesure, au travers de la persévérance, au travers de sa créativité. Il a utilisé son cerveau, sa créativité propre pour pouvoir se développer sa compagnie, son activité, et le voilà au sommet. Mais même ce voleur-là, il est aussi au sommet, rempli d'argent, voilà, dans ses poches. Lui aussi, il a œuvré, mais ce qui change, c'est le processus, c'est pas de la même manière. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Quel est le parcours le plus noble et le plus sensé? Je crois que tu es d'accord avec moi, si tu veux bien faire les choses et que tu as un esprit sensé, bah, c'est le deuxième cas. C'est la personne qui a commencé petit, qui a pas choisi la voie de la facilité et la voie du mal pour pouvoir s'enrichir et pour pouvoir réussir, entre guillemets. Concernant le premier cas, je vais pas dire réussir, mais voilà, qui a fait les choses bien. C'est son parcours qui parle, c'est l'attitude qu'il a eue, le fait qu'il soit persévérant, le fait que son cœur soit attaché justement à la poursuite de la réussite de ce rêve qu'il avait dans son cœur. Et on voit le côté noble dans son processus. Il est arrivé là, le voleur est arrivé à un stade où il est milliardaire, ils peuvent avoir la même somme d'argent dans leur poche, dans leur porte-monnaie. Mais quand tu vas leur demander comment tu as fait pour être autant riche comme ça, bah, il va t'expliquer son parcours. Et donc là, tu vas le voir et tu vas comparer. Et tu vas voir l'effet que ça va avoir dans ton cœur lorsque tu entends quelqu'un qui s'enrichit en volant les autres, en faisant du mal, et quelqu'un qui s'enrichit en faisant les choses bien, en étant bien avec les gens, en faisant les choses, voilà, dans les règles. Pourquoi l'attitude parle? Car il y en a qui veulent s'enrichir, révolutionner le monde, pas que forcément dans l'aspect financier, mais veulent révolutionner le monde avec une mauvaise disposition de cœur. Donc en tuant, en manipulant, en faisant du mal. Nous ne devons pas acclamer le mal, mais nous devons avoir du respect. Vraiment du respect pour les personnes qui œuvrent et souhaitent évoluer dans leurs projets et atteindre les sommets pour le bien de la population. Moi, il y a un exemple qui m'est directement survenu lorsque j'étais en train de préparer cet épisode. C'est Martin Luther King, qui est un artisan de paix. Martin Luther King, c'était un militant pour les droits des Noirs et aussi un pasteur. Et ce que j'aime avec Martin Luther King, c'est qu'il n'a pas essayé de révolutionner, on va dire, sa génération, à changer de mentalité, en particulier chez les Blancs, pour leurs droits en étant dans la guerre, mais justement en voulant la paix et en faisant comprendre qu'un Noir n'est pas en dessous, n'est pas inférieur, et que la couleur de peau n'a rien à voir avec le fait qu'on doit le considérer comme inférieur ou comme qu'il n'a pas le droit d'avoir des droits similaires en fait aux Blancs, entre guillemets. Il ne propageait pas de la terreur, du sang, la guerre, les armes, mais la paix. Et il a dit: je rêve qu'un jour mes quatre enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés pour leur couleur de peau ou pour leur caractère. Le caractère, c'est ta personne. Lorsqu'il le dit, c'est que, en gros, ne me jugez pas par rapport à mon esthétique, à mon extérieur, mais jugez-moi et voyez-moi selon la manière dont je suis, comment je me comporte, parce que c'est ça qui parle et c'est ça qui exprime, ok, tu es comme ci, tu es comme ça, mais c'est ça aussi qui reste. C'est ça qui forme, en fait, dans les esprits des gens, ce que tu es. Donc, quand on te voit en action, quand on voit ton attitude, on se dit, ok, tel est comme ça, Samantha est comme ça, Julien est comme ça. Ton rôle n'est pas que de transmettre des compétences, des techniques, mais aussi, entre guillemets, une philosophie de vie. Et là, je ne parle pas du mouvement de biologie allemand
ou des siècles des lumières ou quoi que ce soit. Ce que je veux dire par philosophie de vie, c'est tout simplement des principes, des valeurs, une mentalité qui amène justement les gens vers le bien, être amour, aimer son prochain. Lorsque tu investis chez les gens, c'est pas pour les manipuler, mais c'est justement leur faire comprendre que vous êtes important et que lorsque je ne serai plus là, c'est vous qui allez prendre le contrôle de l'entreprise, de l'activité. Donc de démontrer cet amour-là en prenant du temps, parce que investir chez les autres, ça prend du temps. C'est pour cela que je le dis, ça ne concerne pas les vieux, mais il faut commencer tôt. Il faut commencer tôt et pas forcément à la fin où tu vois que tu es malade, tu ne peux plus en venir à gérer ton entreprise ou gérer ton activité ou gérer la chose que tu es en train de faire. Même, pourquoi pas ton blog, j'avais dit, oui, ça dépend pas que forcément l'entreprise financièrement, mais ça peut être aussi ton blog et tu choisis quelqu'un d'autre qui puisse succéder à ce blog-là et tu t'occupes peut-être d'autre chose ou tu t'arrêtes. Donc, ça peut marcher pour différentes choses. Mais oui, c'est important. Et là aussi, je souhaite en venir, c'est que le caractère te permet de protéger ce que tu produis et amener en fait à la réussite ce que tu es en train de faire avec ton entreprise que tu entreprends. Je te redonne encore un exemple entre deux personnes riches. Tu as encore deux cas. Une personne avare, donc égoïste, qui n'est pas visionnaire et qui dilapide rapidement son argent pour des choses peut-être futiles. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se faire plaisir, je mets une différence par rapport à ça, mais qui dilapide son argent pour des choses en fait futiles, une grosse somme d'argent auquel ça pouvait servir. Autant, pense à lui, aucun souci, je ne dis pas que ok, tu dois tout donner, tu dois rien avoir, mais de calculer, de se dire que je ne suis pas tout seul dans ce monde. Je ne suis pas tout seul dans ce monde et qu'il y a des personnes qui ne seront pas riches, peut-être qu'ils ne seront pas riches et qui manquent, qui sont dans le manque, qui sont dans le besoin, pourquoi pas cet argent puisse être partagé. Tu as un autre cas, une autre personne riche, mais qui lui justement partage, met en place des choses nobles pour le bien de sa famille, de la société. On voit cet amour-là de se dire que je ne suis pas tout seul et même si toi qui m'écoutes, on n'a pas le même lien de sang, mais on vit tout de même dans le même monde. On vit si tu es français, hein. Bon, mais c'est pas grave. Ça n'a rien à voir avec les origines ou quoi que ce soit. Mais on vit dans le même monde. Tu es peut-être à 1000 km de moi ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais on vit dans le même monde. Et c'est cet aspect-là qui est perdu aussi. C'est de se dire que autant je gagne, mais autant aussi je peux partager pour l'évolution de cette société-là. Et il y en a de moins en moins qui ont cette éthique, qui ont cette pensée-là de se dire que comment faire en venir à évoluer les choses. Je ne dis pas qu'il n'y a personne, mais de se dire que aussi, entre mes mains, j'ai la possibilité de faire quelque chose, peut-être pas grandiose, mais de changer des choses là où je suis. Et ce qu'il faut comprendre en fait, entre ces deux cas, la personne avare ou la personne qui partage, la personne qui pense au bien, qui est visionnaire et qui pense plus loin, c'est tout simplement sa part du mindset, sa part de la pensée. Et il est important qu'on soit renouvelé dans notre pensée, dans notre intelligence, dans la manière dont nous pensons, nous voyons les choses. La manière dont tu penses oriente tout ce que tu fais. Tu veux détruire, que ça soit ta vie, que ça soit ton entreprise, la finalité sera la même, ça sera la destruction. Il ne faut pas voir directement l'entreprise avant, ça c'est pas le sujet, mais entre parenthèses rapidement, mais il faut vraiment analyser les motivations parce que c'est ça qui va se répercuter dans tout ce que tu vas entreprendre. Donc c'est super important de penser à ça et il faut se dire que tu peux avoir des bonnes idées, vraiment une technique remarquable dans un domaine, dans une discipline particulière, mais si tu ne changes pas niveau caractère, niveau attitude et que tu sais qu'il y a des choses qui pourraient être nuisibles pour ton avancement et pour l'avancement du projet, tu peux être en fait mis sur la touche, disqualifié et donc manquer de crédibilité. Les compétences ne suffisent pas. Que tu aies la plus grande entreprise, que tu parviens à être le plus grand entrepreneur, si tu es quelqu'un qui fait le mal, qui est détruit, et même si tu es fort, tu fais des prouesses mais vraiment extravagantes, extraordinaires, Et c'est vraiment ce côté-là, méchant entre guillemets, qui va ressortir. Qu'est-ce qui compte réellement? Bah, c'est votre cœur.
On arrive vers la fin. J'aimerais finir sur des bonnes notes. Je vais être honnête avec toi, tu ne seras pas forcément un précurseur d'une œuvre, d'un mouvement, de quelque chose. Tu ne seras pas forcément le précurseur de, l'innovateur de, que celui qui a amené quelque chose qui n'existait pas. Ce n'est pas tout le monde. Il y a plein de chrétiens dans le monde, mais le christianisme est venu par un homme, au nom de Jésus-Christ. Renault a commencé avec 3 frères et aujourd'hui, il y a plein d'employés, un PDG, un nombre si grand de collaborateurs, mais ça a commencé à 3, par 3, 3, juste 3 frères. On n'est plus en ce temps, mais il y a eu des esclaves noirs qui ont lutté pour l'abolition, des hommes politiques noirs aussi pour son abolition et même durant la ségrégation raciale. Je vais donner l'exemple de Martin Luther King, mais ça a commencé par une minorité. Les personnes qui se rebellaient étaient contre justement cette domination que les blancs avaient sur les noirs. Si tout le monde veut être précurseur d'une grande chose, cela va affaiblir le développement de la société. Il n'y aura que des coupures successives par génération. Et donc les fruits que l'ancienne génération a récoltés, au lieu que ça soit transmis à la génération future pour lui faciliter la tâche et autant en venir à agir en fonction de son temps et avec son temps et à utiliser ces outils-là, non pas les dénaturer, mais à les ramener au plus loin, à les développer, bah on voit que ça serait comme si, bah, voilà, vous avez fait ça pour rien, on recommence à zéro. Et c'est encore une grande tâche à pouvoir refaire les bases, à pouvoir remettre... La base en place pour développer. Et encore une fois, si on pense tout le temps comme ça, ça va affaiblir. Et au final, on sera perdant. Je me rends compte qu'il y a des choses qui ne durent pas. Et ça, ce n'est pas forcément des entreprises, mais même dans cette société, dans cet état. C'est parce qu'on néglige ce qui a été établi de base. On néglige ce qui a été établi de base et on rase tout et on refait tout. Mais c'est encore un travail énorme. Parce que bâtir, c'est pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Alors, il faut penser que oui, des fois, il faut prendre les choses des anciens, continuer l'œuvre qui a été commencée auparavant et continuer son développement. Continuer son développement, le développer au fur et à mesure, et encore une autre génération va survenir et que eux bénéficient justement des fruits et devient successeur justement de ce qui a été récolté, de ce qui a été produit, pour qu'il puisse prendre et amener ces œuvres encore au plus loin. Donc là, ça peut être divers, hein. On a Renault, on a plein d'autres marques de voitures, plein d'autres choses dans différents domaines, même l'agroalimentaire, et de le développer, de le ramener au plus loin, ainsi de suite, un peu dans l'idée de dynastie. Tu ne seras peut-être pas celui qui a créé, mais celui qui a continué l'œuvre de quelqu'un qui a déjà existé auparavant et qui a continué à le développer encore et encore et qui passe le flambeau. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Et de se dire que oui, tu ne seras pas forcément précurseur, mais celui qui continue l'œuvre. Et comme je te l'ai dit au début, il n'y a pas d'âge. Pas d'âge pour être héritier. Parce que tu peux voir le titre, tu dis « Oh là là, bon ok, c'est pour les vieux entrepreneurs ou quoi que ce soit ». Pas du tout. Si tu es jeune et tu m'écoutes, là en ce moment, c'est pour toi. Je vais te donner 2 exemples pour cela de 2 enfants qui sont un peu plus grands aujourd'hui, mais ils ont commencé enfants, qui justement défient un peu la mentalité humaine ou la notion de réussite pour certains. Tu as Mosiah Bridges, qui est un créateur de nœuds papillons et qui a commencé son entreprise à 9 ans. Donc ce jeune garçon, enfin, il est grand maintenant, je crois qu'il a 18 ans ou plus, à son jeune âge, à 9 ans, a demandé à sa grand-mère de lui apprendre à faire des nœuds papillons, donc à coudre. Donc il le faisait, ça l'amusait, il aimait bien ça, il s'appliquait. Et il donnait justement ses nœuds papillons comme ça, il offrait aux gens de sa ville, donc de son quartier. Je crois que Mosiah Bridges
d'un Américain. Et puis le donner comme ça, et puis ça commence à plaire. Il créait voilà, des modèles vraiment bah, superbes et ça plaisait. Ça grandit, ça atteint son quartier jusqu'à ça atteigne justement sa ville. Et à 11 ans, donc à 9 ans, il crée son entreprise, du coup en son nom. C'est pas exactement Mosia Bridges, c'est un nom, mais on retrouve son prénom dans la marque, le mot. Et à 11 ans, son entreprise valait déjà 150 000 dollars. À 15 ans, il signe un contrat avec la NBA. Et dans la vidéo que j'ai vue, je vous mettrai le lien pour écouter son histoire. Il dirigeait, il est mineur, hein, mais il dirigeait son entreprise avec 7 employés. Et à 15 ans. Il partage son argent avec des jeunes défavorisés dans son quartier. Donc, comme j'ai pu l'expliquer, le visionnaire, il a autant monté son entreprise, mais il a pensé aussi à la société, aux autres, pour qu'eux aussi puissent évoluer et avoir de quoi avoir accès pour leur évolution, scolairement parlant, en tant qu'individu, voilà, personnellement. Et donc, voilà, qu'il s'est enrichi. Et ça n'a pas commencé quand il avait 30 ans. Il n'a pas forcément pensé quand il avait 50 ans, mais dès son plus jeune âge, ses parents, ses proches ont su exploiter le don qu'il avait pour que ça puisse être au bénéfice des autres. Et on voit comment il a évolué du coup dès son plus jeune âge. Donc Mosia, c'est un garçon, et là je vous parlais d'une fille qui s'appelle Marley Diaz, qui est plus grande aujourd'hui et qui est une grande lectrice. Et en tant qu'enfant, lorsqu'elle parcourait les livres, elle ne voyait pas, ne trouvait pas des livres avec des héroïnes noires. Donc à 11 ans, elle crée une plateforme internet qui regroupe tous les livres dont les protagonistes sont des femmes, des filles noires. Sa plateforme a eu un grand succès. Elle a été classée dans un magazine très célèbre, a fait des plateaux de télévision. Et elle a écrit un livre pour inspirer d'autres personnes à se lancer dans le monde des affaires et réussir. Je crois que cette fille est née en 2005. Mosia, je ne sais pas s'il est né aussi en 2005, mais voilà, une mineure, une personne qui a débuté en étant enfant, qui a eu une certaine maturité, ça on peut le dire, et qui, moi, ce qui m'a touchée, c'est qu'elle a écrit un livre. Elle a compris que autant elle a réussi, elle transmet maintenant aux autres que vous pouvez aussi réussir. Et c'est ça l'héritage, c'est ça la transmission. C'est ça, parce que ils impactent en fait même les enfants à leur dire que vous valez plus que ça, de vous laisser comme ça. Mais vous pouvez réaliser des choses, même en étant plus petit. Après, chacun sa manière de voir les choses. Mais déjà, dès l'enfance, leurs proches ont su exploiter les dons qu'ils avaient et de les aider pour. Parce que dans l'histoire de Mosia, on explique que sa mère était derrière, sa mère l'aidait, donc il n'était pas tout seul. Il y avait aussi ses proches qui étaient là. Voilà deux exemples qui te montrent que ça n'a rien à voir avec l'âge, que ça n'a rien à voir avec voilà, le fait que, ok, à 50 ans, on pense héritage. Non, pas du tout, pense là dès maintenant, à un moment donné où tu commences à avancer dans ton activité. Et dès lors que tu te mets dans une position de transmission, de transmetteur, et que tu réussis, s'active directement en fait l'idée d'héritage, de succession, parce que les gens vont recevoir de toi. Voilà pourquoi j'ai mis en place le podcast Le Réveil des Champions. Je me suis dit, ok, j'ai des choses en moi, j'ai des projets, je monte des choses, mais je me dis que je vis dans une génération. Ok, il y a des plus petits que moi, je suis jeune, hein, mais je pense aux autres, en fait, et je me dis que c'est cette génération, enfin les plus petits que moi, et pas forcément que les plus petits, même les autres, des personnes qui n'ont pas forcément ce que j'ai, ont besoin aussi de ce que j'ai en moi pour tout simplement qu'ils ne soient pas démunis face aussi à la progression, à l'évolution de la société. Le réveil des champions, c'est vraiment l'idée d'héritage, de donner ce que j'ai, pour que des choses importantes ne soient pas oubliées, pour que
la prochaine génération, les choses qui vont suivre, les personnes qui vont suivre ne soient pas démunies. Et je ne dis pas d'un point de vue financièrement, mais on peut parler aussi du côté financier, mais même du côté intellectuel, spirituellement, dans plusieurs domaines. Et avoir des supports pour pouvoir aller encore au plus loin et développer encore le monde de demain, la société dans sa continuité. Voilà. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Merci pour le temps que tu as pris pour écouter. N'hésite pas si besoin à me contacter pour des informations ou autres. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode sur le réveil des champions. À très bientôt.